Voilà, nous allons donc continuer notre parcours sur la vie, sur l'enseignement de Jésus. Et donc aujourd'hui, nous voulons aborder le thème de l'éthique de Jésus. L'enseignement de Jésus concernant ses valeurs morales, la façon également dont il a lui-même incarné ses valeurs. Pour ceux qui suivent l'ensemble de notre parcours, nous prolongeons ainsi nos deux dernières études. Il y a 2 mois, nous avions parlé de la question du royaume ou du règne de Dieu annoncé par Jésus. Et nous avions vu qu'en la personne de Jésus, par sa venue, une réalité nouvelle est inaugurée dans l'histoire des hommes, qui est le règne de Dieu. Elle est déjà à l'œuvre partout où se manifeste l'action de Dieu et où s'accomplit sa volonté. Et elle débouchera sur le règne universel, pleinement visible de Dieu sur toute chose, lorsqu'il transformera vraiment toute chose, vraiment dans une création renouvelée. Mais déjà maintenant, ce règne de Dieu qui est en train de se manifester est appelé aussi à se concrétiser par des vies transformées, vécues selon la volonté de Dieu. Et donc nous trouvons ici le thème de l'éthique en relation avec le thème du royaume de Dieu. Et puis, le mois dernier, nous avons vu la façon dont Jésus a pris le temps de former des disciples. Il les a choisis, il les a accompagnés, il les a enseignés. Son but était d'imprimer vraiment sa marque de manière profonde en leur vie, pour qu'ils puissent, avec leur personnalité et leur caractère propre, reproduire dans leur vie quelque chose de ce qu'ils avaient vu en Jésus. Et le but d'un disciple de Jésus-Christ, c'est que Christ soit formé en nous. Alors, l'éthique va aussi dans ce sens-là, s'inscrit aussi dans cette perspective. Alors, je vais juste dire quelques mots d'abord pour dire qu'est-ce qu'on entend par l'éthique. L'éthique, c'est l'ensemble des règles et des principes moraux qui déterminent la conduite. C'est ce qui donne les orientations d'une vie. C'est ce qui préside aux priorités d'une vie. En même temps, l'éthique, c'est aussi d'une certaine façon un critère qui juge nos vies et par rapport auquel nos vies sont évaluées. Quand on parle d'éthique, on parle de normes et de valeurs qui doivent nous orienter, nous déterminer, mais qui peuvent aussi nous juger à certains moments en retour. Et ces normes, nous sommes appelés à les faire nôtres, à les intégrer personnellement. Mais en même temps, nous n'en disposons pas à notre guise. D'une certaine façon, elles s'imposent à nous. Imaginons ce que la vie serait si chacun déterminait lui-même, à son envie, ce qui est bien, ce qui est mal. Il faut qu'il y ait quelque chose de commun et d'une certaine façon, quelque chose qui s'impose à nous et à tous. Dans la perspective de la Bible, le fondement de l'éthique, c'est que Dieu est le Seigneur et que Dieu est la source de tout bien. C'est lui qui nous a fait, nous recevons de lui la vie, le mouvement et l'être, et nous sommes appelés à vivre selon sa volonté, à respecter ses commandements. Et donc, l'éthique chrétienne sera donc principalement et d'abord une éthique de la volonté de Dieu. Et cela nous ramène d'une certaine façon au thème que nous avions dit du royaume de Dieu et de la formation du disciple. Il s'agira vraiment de manifester que le Seigneur règne dans notre vie et que nous le faisons de la façon dont Jésus nous a enseigné et veut nous former. Voilà juste pour rappeler, pour fixer un petit peu le cadre de cette pensée sur ce qu'est l'éthique et ce dont nous parlons. Premièrement, donc, essayons de voir quelles sont les formes, quels sont les lieux où Jésus donne son enseignement éthique. Alors, les évangiles ne sont pas construits comme des manuels d'éthique, hein, c'est pas un livre de morale, les évangiles. Les évangiles nous rapportent la vie, l'enseignement de Jésus au sens le plus large. Les textes sur l'éthique se trouvent donc en plusieurs endroits. Le texte principal qui rassemble d'une certaine façon l'enseignement éthique de Jésus, est incontestablement le sermon sur la montagne, qui se trouve rapporté dans Matthieu chapitre 5 à 7. Ce sermon est l'un des cinq grands discours de Jésus qui forment l'évangile selon Matthieu, et donc en deux chapitres, il condense en quelque sorte l'enseignement éthique de Jésus. On pourrait juste lire les deux premiers versets de ce sermon sur la montagne qui nous en donne juste le prélude. Matthieu 5, verset 1, « À la vue des foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. » Ici, Matthieu donne déjà un double éclairage à ce sermon. D'abord, il est dit « Jésus monta sur la montagne ». Et cela évoque d'une certaine façon le moment où Moïse aussi était monté sur une montagne, la montagne du Sinaï, on l'a lu tout à l'heure. Moïse est monté sur la montagne du Sinaï où il a reçu la loi de Dieu. Et Jésus lui aussi monte sur une montagne avant de donner aussi ses instructions concernant la vie dans le royaume de Dieu. Mais contrairement à Moïse, Jésus ne monte pas seul. Ses disciples, nous a-t-il dit, viennent à lui. Et là, sur la montagne, Jésus s'assied et Jésus prend le temps d'enseigner ses disciples. Les foules sont là, mais d'une certaine façon à distance. On les retrouvera en fin de discours. Et plusieurs voient dans cette manière de poser le cadre du sermon sur la montagne une façon de décrire le sermon sur la montagne comme la nouvelle loi du royaume de Dieu. Tout comme Moïse avait donné la loi au peuple d'Israël, Jésus ici donne la nouvelle loi du royaume de Dieu, une loi que Jésus enseigne pour tous ceux qui sont ses disciples. Il ne s'agit donc pas d'une éthique universelle qui serait valable pour tous les hommes, mais d'une éthique pour ceux qui veulent suivre Jésus, qui veulent vivre vraiment selon cette charte du royaume qui est inaugurée par Jésus. Le sermon sur la montagne, donc, est le cœur de l'enseignement éthique de Jésus. Mais en même temps, il n'est pas le seul lieu où Jésus parle d'éthique ou de morale de conduite. Plusieurs enseignements, Jésus les a donnés en réponse à des questions ou à certaines situations. Par exemple, quand on lui a demandé « Quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus dit là, le plus grand commandement de la loi, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ou alors quand on lui demande « Qui est mon prochain ?» Ou quand on lui demande « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Et alors, en situation, Jésus développe un enseignement en réponse aux questions qui lui sont posées. On trouve aussi des enseignements éthiques de Jésus donnés dans des cadres de controverses. Certaines questions posées à Jésus étaient des questions hostiles. Mais à certains moments aussi, Jésus a tenu des propos assez forts, en particulier, par exemple, contre l'hypocrisie religieuse d'un certain nombre de personnes qu'il voyait autour de lui. Et là aussi, lorsque Jésus dénonce l'hypocrisie religieuse, il donne un certain nombre d'enseignements éthiques importants. Donc, vous voyez, en plusieurs endroits, on peut trouver des enseignements de Jésus. Il faut lire l'ensemble de l'Évangile pour les discerner, même si le cœur est donné dans le sermon sur la montagne. Quant à la forme, Jésus développe son enseignement en des formules souvent ramassées, bien travaillées, bien réfléchies en tout cas. Jésus ne se limite pas non plus à enseigner des principes, à donner des grandes idées. Il veille aussi à donner des exemples, à donner des illustrations, des applications. Et pour cela, Jésus n'hésite pas à donner parfois des formules qui frappent, qui s'impriment vraiment. Et il manie en particulier une forme de langage qu'on appelle l'hyperbole, qui est le fait de faire une sorte d'exagération calculée. On fait une exagération calculée pour provoquer un certain effet, pour imprimer les choses dans la mémoire. Par exemple, Jésus dit « Si ta main est une occasion de chute, coupe-la ». Bon, ça c'est quelque chose qui, quand on l'a entendu, on se rend compte que bon, c'est sérieux cette affaire. Hein. Ça ne veut pas dire forcément que Jésus demande que si on a fait quelque chose de mal avec nos mains, on la coupe littéralement, mais c'est dire, fais attention et évite de faire quelque chose avec cette main. Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Hein. Donc, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle une hyperbole, où vraiment on donne quelque chose de fort, qui frappe l'imagination, mais qui dit de manière très claire, attention, il faut par exemple ici, dans ces cas-là, mettre une restriction par rapport à l'usage de sa main ou par rapport à ce qui frappe nos regards. Donc vous voyez, c'est ainsi que Jésus donne son enseignement. Alors, donc, voilà, ça donne un petit peu le cadre. J'aimerais maintenant faire quelques remarques sur le lien entre l'éthique de Jésus et le royaume de Dieu. Quel lien établir entre l'éthique de Jésus et le reste de son enseignement, en particulier sur le royaume de Dieu? Alors, j'aimerais d'abord relever une chose, c'est que certains admirent énormément l'éthique de Jésus, mais par contre rejettent le reste de sa théologie. C'est le cas, par exemple, d'un certain nombre d'autres juifs qui trouvent magnifique l'enseignement éthique de Jésus, mais qui voudraient d'une certaine façon pouvoir détacher cet enseignement de ce que Jésus dit de lui-même et de ce que Jésus dit de sa propre mission et de ce qu'il dit aussi du Père. Je vous cite un auteur juif qui dit « Si le jour pouvait venir où l'on débarrasserait le code éthique de Jésus de son emballage de miracles et de mysticisme, le livre de l'éthique de Jésus serait l'un des trésors les plus précieux de la littérature d'Israël de tous les temps. » Voyez, quelqu'un qui dit « c'est magnifique l'éthique de Jésus, mais on aimerait tellement que ce soit séparé de tout le reste. » Certains théologiens chrétiens libéraux ont eu d'une certaine façon la même démarche. Ils n'ont gardé de Jésus que l'éthique, en disant « Jésus est magnifique pour tout ce qu'il nous dit sur la manière de se conduire, etc. » Il donne une morale magnifique, mais par contre, tout ce que Jésus dit par ailleurs, de lui-même, de sa divinité, de sa mort, etc., tout cela, on le met de côté. Donc vous voyez, cela rappelle que chanter la beauté de l'éthique de Jésus peut aussi avoir un côté ambigu. Et si on valorise un côté de Jésus pour dévaloriser l'autre, il est certain que l'on va pas interpréter Jésus comme lui-même l'aurait voulu. D'où la nécessité d'intégrer vraiment l'éthique dans l'ensemble de l'enseignement de Jésus. Alors c'est clair quand on lit le sermon sur la montagne que l'éthique que Jésus demande est bel et bien liée au thème du royaume de Dieu. Alors je vous donne quelques lectures qui le disent. Dès l'ouverture du sermon sur la montagne, les béatitudes commencent à parler du royaume de Dieu. Dès que Jésus commence son sermon sur la montagne, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu des cieux est à eux ». Jésus parle ensuite de l'obéissance au commandement de Dieu. Matthieu 5, verset 19. Il dit « Celui qui supprimera l'un des plus petits commandements, qui enseignera aux hommes de faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, qui les enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Vous voyez que l'observance des commandements, ou sa non-observance, est liée à la participation au royaume de Dieu, au royaume des cieux. Jésus avertit aussi et fixe les exigences éthiques. Matthieu 5, verset 20. « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Donc là encore, le lien est fait. Et puis après plusieurs enseignements sur certaines priorités à donner pour la vie éthique, Jésus résume sa pensée en disant, Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. » Et à la fin du sermon sur la montagne, Jésus conclut en disant, Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc vous voyez, tous ces textes que j'ai lus, que j'ai pris au fur et à mesure du sermon sur la montagne, ils nous montrent que l'éthique de Jésus se situe bien dans la perspective du royaume de Dieu. C'est dans cette ligne-là qu'il veut que nous la comprenions. C'est ainsi qu'il inscrit vraiment son enseignement. Alors, une fois qu'on a dit cela, il faut que je vous signale qu'il y a des manières différentes de comprendre l'éthique de Jésus en fonction de la compréhension que l'on a du royaume de Dieu. Et j'aimerais vous donner trois perspectives différentes, deux que je conteste et une qui semble être plus juste. Première perspective, certains ont pensé que pour Jésus, le royaume de Dieu allait venir très vite, allait venir immédiatement. Ils disent vraiment Jésus a annoncé quelque chose, un royaume qui devait venir très très prochainement dans son esprit. Et donc, d'une certaine façon, son enseignement qu'il donne est un enseignement pour la période très courte qui sépare les gens de cette venue du royaume de Dieu. Et donc, il dit, il faut revenir à Dieu. Il faut manifester une attitude de renouvellement moral radical. Et c'est ici que, dans ce contexte, que se situerait l'éthique que Jésus développe dans le Sermon sur la montagne. Cette éthique de Jésus serait dans ce cadre-là une éthique de l'intérim, une éthique de l'urgence. En attendant que le royaume de Dieu vienne, ça va se faire très vite, il faut vivre de cette façon pendant cette petite parenthèse de vie qui nous est encore donnée. C'est ce qui expliquerait, disent certains, le regard assez négatif de Jésus sur, par exemple, l'attachement à la propriété, l'attachement à la famille, l'attachement à la richesse. Jésus relativise beaucoup ces choses, bien de ses enseignements, et ce qu'on dit, c'est parce que, justement, c'est une éthique de l'intérim. C'est quelque chose qui est valable pour un très très court temps avant que le royaume de Dieu ne vienne. C'est aussi pourquoi, disent ces gens-là, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour les questions sociales. On est dans l'intérim. C'est aussi, disent ces gens-là, ce qui explique l'élévation de ce que Jésus demande. Jésus a des exigences qui sont très très élevées, presque impossibles à réaliser. Son but, c'est surtout par cet enseignement de produire un choc, de faire revenir sur soi-même et d'inviter à une position radicale en attendant le royaume de Dieu. Mais c'est simplement parce que pour un temps très court, ensuite ce sera autre chose. Cette position a été défendue par un nom que vous connaissez peut-être, vous avez entendu parler d'Albert Schweitzer, qui était un médecin donc, qui a eu pas mal d'influence, il était aussi théologien, et donc voilà sa position. Alors comment, que penser de cette manière de voir l'éthique du royaume ? Ce qui est intéressant, on a relevé pour contrer cette manière de voir les choses, qu'à aucun moment dans le Sermon sur la montagne, il n'est question de l'imminence du royaume. On parle du royaume de Dieu, je vous ai lu les textes tout à l'heure dans le Sermon sur la montagne, mais à aucun moment on dit que ce royaume est proche, qu'il vient vite et que c'est pour cela qu'il faut agir de cette façon-là. Si l'imminence était vraiment la motivation, on pourrait attendre que cette note soit soulignée. Or, elle ne l'est pas. Et à l'inverse, il y a des textes qui parlent d'une certaine imminence. Il faut être prêt, dit Jésus. Dans Matthieu 24, verset 34, Jésus dit « Cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent ». Quand il dit toutes ces choses, c'est les signes précurseurs du royaume. Donc là, on est un peu plus dans l'imminence. Mais ce texte qui parle de l'imminence du royaume n'a aucun enseignement éthique correspondant. Donc c'est artificiel de lier ces deux termes de l'imminence du royaume et de l'éthique de Jésus. Et si on regarde les raisons pour lesquelles Jésus a des exigences élevées dans son éthique, c'est pas à l'imminence du royaume que c'est lié. Mais c'est plutôt à Dieu et à ses perfections. Il dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». C'est ça qui est la motivation. Et ce n'est pas parce que le royaume va vite venir. De même, quand Jésus parle de l'amour de l'ennemi, ce n'est pas parce que le temps est proche qu'il faut absolument aimer même son ennemi. Mais c'est afin d'être fils de notre Père qui est dans les cieux. Donc voyez, simplement ces éléments permettent de dire il n'est pas juste de penser de cette façon. Cette éthique n'est pas une éthique de l'intérim, d'un temps limité en attendant le royaume de Dieu. Deuxième conception qui existe et qu'il faudra rejeter, certains disent au contraire que le royaume dont Jésus parle est encore à venir et est uniquement à venir. Et que l'enseignement éthique qui est donné dans le Sermon sur la montagne ne concerne que un royaume qui est futur, qui est à venir. Nous n'y sommes pas encore, donc l'éthique du Sermon sur la montagne n'est pas pour nous. Vous voyez, ça c'est l'inverse. Hein. Le royaume doit venir, nous n'y sommes pas encore. L'éthique du Sermon sur la montagne est pour ce moment-là qui sera à venir, aujourd'hui, nous ne sommes pas tenus par cela. C'est entre autres la position que tiennent un certain nombre de chrétiens, qu'on appelle les chrétiens dispensationalistes. Ces personnes pensent qu'au départ, Jésus était venu proposer un royaume terrestre à Israël. C'est ça ce qu'il appelle le royaume de Dieu. Israël, et c'est dans ce sens-là, c'est pour ce royaume-là que Jésus donne ses instructions sur la morale, la façon de se conduire. Israël, disent ces gens-là, a refusé cette offre du royaume, et du coup, Jésus a reporté ce royaume à beaucoup plus tard et a mis une sorte de parenthèse nouvelle qui est le temps de l'Église. Et donc, ils disent, l'éthique du royaume que l'on trouve contenue dans le Sermon sur la montagne vaut pour ce temps à venir. Mais nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas tenus par cela. Je vous lis un partisan de cette position qui dit « Il ne faut pas tomber dans l'erreur qui consiste à essayer d'imposer un accomplissement littéral du Sermon sur la montagne aujourd'hui. Il sera accompli de façon littérale, mais seulement à la fin de l'époque où nous vivons, quand le Seigneur Jésus s'occupera de son peuple d'Israël. » Alors pour contrer cette vision des choses, je crois qu'il faut, c'est toute la conception du royaume de Dieu qu'il faudrait développer, mais il faut aussi rappeler que Jésus s'adressait à ses disciples. Jésus s'assit, ses disciples s'approchent de lui. Cela concerne donc la vie d'aujourd'hui. Et le lien avec l'idée d'être disciple, c'est quelque chose qui fait la continuité vraiment. Et bien des situations évoquées dans le Sermon sur la montagne renvoient à une situation où le mal est encore présent. Il y a un ennemi qui est là, il y a des gens qui nous frappent et auxquels il faut tendre la joue. Il y a toutes ces tentations qui sont là. Et ce n'est pas du tout des choses qui sont normalement prévues dans la vision qu'on a du royaume futur que décrivent ces gens-là. Donc il y a une incohérence à cela. Et c'est ici donc que le troisième élément est à intégrer. Il nous faut intégrer une conception dynamique du royaume de Dieu. Nous avions dit donc la dernière fois comment Jésus voyait le royaume de Dieu. D'une part, Jésus voit le royaume comme étant, avec sa présence, avec son œuvre, une nouvelle réalité est inaugurée. Elle manifeste déjà sa nouveauté. Et c'est pourquoi Jésus donne de nouvelles orientations à son éthique et qu'il pousse cela plus loin que la loi de Moïse. Et c'est ce que Jésus dit dès le début du Sermon sur la montagne. Mais en même temps, nous sommes dans un monde où le royaume n'est pas encore achevé. Le royaume de Dieu se fraye un chemin dans un monde mauvais où nous vivons. Et l'une des manières par lesquelles nous sommes appelés à manifester la réalité du royaume, ce sera aussi par notre conduite éthique, par notre façon de vivre dans ce monde. Et c'est ce que Jésus dit lorsqu'il dit, par exemple, que nous sommes appelés à être la lumière du monde. Par notre conduite, par nos paroles, nous sommes appelés à être la lumière du monde. C'est une manière de manifester que le royaume de Dieu est déjà inauguré, se réalise déjà d'une certaine façon dans ce monde qui reste un monde mauvais. Donc on est dans une situation d'entre-deux. Le royaume est déjà inauguré, une nouvelle réalité. Il est encore à venir pour son accomplissement. Dans l'entre-deux, il faut manifester le maximum de la présence, justement, et de l'action de Dieu. Et j'aimerais juste rappeler ici cette expression et cette portée de l'expression « Vous êtes la lumière du monde ». Nous sommes la lumière du monde par nos paroles. Nous sommes appelés à dire l'Évangile, mais nous sommes aussi appelés à être la lumière du monde par notre conduite et par le fait que nous vivons d'une manière qui incarne les valeurs, qui incarne la réalité du royaume de Dieu déjà maintenant. Et il est important de bien prendre en compte cela. Donc voilà, si vous voulez, pour le lien que je voulais faire entre l'éthique et le royaume de Dieu. Maintenant, quelques mots sur l'exigence de justice à laquelle Jésus nous invite. Pour Jésus, donc, le royaume de Dieu est une nouvelle réalité qui s'introduit dans l'histoire, par sa venue et par son œuvre. Mais cela implique aussi une exigence nouvelle en ce qui concerne l'éthique. Et Jésus le dit très clairement. Dans Matthieu 5, verset 20, nous pouvons lire ce verset qui dit « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et la voit ici Jésus qui dit, il faut vraiment que se manifeste une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Et la question, c'est comment comprendre cette parole? Que veut dire Jésus quand il parle de cette justice plus grande que ce qui surpasse celle des scribes et des pharisiens? Cette parole, il est important de l'écouter en contexte. Et le contexte, c'est d'abord ce qui précède cette parole. J'ai lu donc Matthieu 5, verset 20. Je voudrais lire maintenant la façon dont Jésus parle de lui-même et de son œuvre. Juste quelques versets auparavant, au verset 17. Matthieu 5, verset 17. Jésus dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et ici, Jésus dit quelque chose de très important. Jésus dit très très clairement qu'une ère nouvelle intervient et que cette ère est celle de l'accomplissement. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi et les prophètes. En Jésus, par sa présence, par sa mission, tout ce qui a été annoncé, tout ce qui a été préparé par l'Ancien Testament est en train d'atteindre son but. Ce qui était annoncé s'accomplit. Ce que Dieu avait préparé, ce qu'il avait préfiguré, cela trouve son aboutissement et sa lumière. Jésus parle ici de la loi et des prophètes. C'est plus large que simplement l'éthique. Il ne dit pas simplement « je suis venu accomplir la loi ». Il dit « je suis venu accomplir la loi et les prophètes ». Et les prophètes, ils ont parlé en effet de la volonté de Dieu, mais ils ont aussi parlé du salut de Dieu. Ils ont parlé du fait que Dieu voudrait aller établir une alliance nouvelle, aller accomplir une relation nouvelle, inaugurer une relation nouvelle entre Dieu et l'homme. Ils ont annoncé la réconciliation, la possibilité du pardon. Et tout cela, dit Jésus, arrive à son accomplissement avec son œuvre. Et très clairement, il dit que sa mission accomplit ce que Dieu a mis en œuvre et annoncé jusque-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique? Cela implique, du point de vue de la loi, par exemple, donnée à Moïse, il y avait des choses qui, dans la loi de Moïse, étaient de l'ordre de la préfiguration de ce qui était annoncé. Les sacrifices préfiguraient ce que Dieu allait faire. Certaines cérémonies préfiguraient ce que Dieu voulait accomplir par son Messie. Alors, tout ce qui est de l'ordre de la préfiguration va s'effacer devant l'accomplissement lorsqu'il arrive. Tout comme l'ombre de quelqu'un qui annonce sa présence qui s'approche n'a plus aucune raison d'être lorsque la personne est là en pleine lumière. Donc il y a des choses qui vont, du point de vue de la loi, s'effacer parce qu'on est du côté de l'accomplissement. Et très naturellement, c'est la réalité qui prend la place centrale. En ce qui concerne la justice, qu'en est-il ? Grâce au fait que Jésus accomplit la loi et les prophètes et qu'il accomplit pleinement le salut, et Jésus dit dans les béatitudes que ceux qui ont faim et soif de justice pourront être heureux, car rassasiés. Rassasiés de quoi? Quand Jésus dit heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Ils sont d'abord rassasiés de grâce. Ils sont d'abord rassasiés de pardon. Vous savez que Jésus a décrit, par exemple, ce pauvre péager qui un jour est monté au temple, qui se frappait la poitrine en disant « Mais Seigneur, aie pitié de moi !» Et il était à côté d'un pharisien qui, lui, se sentait très très bien devant Dieu. Mais Jésus a dit « Lequel sera rassasié de justice, lequel sera justifié, c'est ce pauvre homme qui se frappait la poitrine et qui vraiment attendait tout de Dieu. Car, dit Jésus, celui qui s'élève sera abaissé, ça c'est pour le pharisien, et celui qui s'abaisse sera élevé. Parce que c'est le temps de l'accomplissement, il y a des ressources de pardon. Et cela, Jésus vraiment l'a illustré tout au long de son ministère, en accueillant ceux qui avaient besoin de grâce, besoin de pardon, en disant vraiment, c'est le temps du pardon des péchés pour tout le monde. Donc la justice, pour ce qui concerne la justice, il y a des ressources de justice par la grâce qui est donnée, du fait que Jésus vient accomplir ce qui était promis. En ce qui concerne les ressources pour vivre la vie selon Dieu, là aussi, il y a du nouveau. Les prophètes avaient annoncé qu'une nouvelle alliance verrait. Une nouvelle alliance où la loi de Dieu serait plus simplement gravée sur la pierre, mais où elle pourrait être gravée sur les cœurs, parce que Dieu allait agir vraiment dans le cœur des gens. Une nouvelle alliance où Dieu allait donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ézéchiel annonce cela au chapitre 36, verset 27. « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous puissiez suivre mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Et donc, si vous voulez, Jésus vient accomplir toutes choses. Il accomplit la loi et les prophètes, et il accomplit aussi ce qui concerne la nouvelle alliance avec Jésus, avec ce qu'il veut nous donner. Il y a des ressources nouvelles qui sont possibles pour vivre la vie selon Dieu. Et donc, quand Jésus accomplit la loi et les prophètes, c'est un grand privilège. C'est un grand privilège. On peut être pardonné, on peut recevoir une justice pleine, entière, et on peut aussi recevoir des ressources de vie nouvelles. Mais en même temps, Jésus dit, parce qu'il y a ces privilèges et parce que c'est le temps de l'accomplissement, il y a aussi une exigence de vie avec Dieu qui est plus haute. Et c'est aussi dans ce sens-là que Jésus dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et donc, si vous voulez, cette justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens, c'est d'abord une justice qui reçoit le pardon, pour qui le pardon est disponible. C'est une justice où Dieu est à l'œuvre dans les vies d'une manière nouvelle, parce que c'est le temps de l'accomplissement. Mais c'est aussi une justice qui a des exigences beaucoup plus élevées. Et on voit dans le Sermon sur la montagne que Jésus vraiment va loin dans les exigences de justice et prolonge vraiment ce qui était déjà les exigences données dans la loi de Moïse. Et c'est ici que nous pouvons donc considérer la suite de ce passage où Jésus pousse très loin son appel à vivre selon Dieu. Et Jésus demande des dépassements par rapport à ce qui était simplement le cadre de la loi de Moïse. Et c'est ainsi que dans le Sermon sur la montagne, après que Jésus ait dit « Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes », il donne 6 exemples pour montrer combien il faut aller plus loin et aller vers une application plus radicale de certains commandements qui étaient contenus dans la loi de Moïse et qui étaient interprétés par la tradition en Israël. On peut lire le premier exemple, et tous ceux qui suivent sont construits sur le même modèle. Matthieu 5, versets 21 et 22. Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, celui qui tuera sera passible de jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible du jugement. Celui qui traitera son frère de fou, hein, raca, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. » Vous avez vu comment Jésus fonctionne ? Jésus va plus loin que simplement ce qui avait été dit. Alors ici, il faut juste faire une petite précision. À quoi est-ce que Jésus s'oppose lorsqu'il s'oppose à ce qui a été dit aux anciens ? Est-ce qu'il vise la loi de Moïse ? Vous avez entendu ce qui a été dit aux anciens. Est-ce qu'il vise simplement la loi de Moïse pour dire il faut aller au-delà de la loi de Moïse ? Ou est-ce qu'il vise la loi de Moïse et l'interprétation qu'en faisaient les scribes et les pharisiens ? J'aimerais juste vous dire que je pense que c'est plutôt la deuxième interprétation, c'est-à-dire Jésus conteste ici la loi de Moïse et la façon dont on l'interprétait, dont on la considérait chez les scribes et les pharisiens. Vous avez vu que Jésus dit « Vous avez entendu ce qui a été dit aux anciens ». Jésus ne dit pas « Vous avez entendu ce qui a été écrit ». Vous savez que Jésus emploie souvent la formule « il est écrit ». Quand Jésus emploie la formule « il est écrit », c'est une manière de renvoyer à l'Écriture comme parole de Dieu. Et en général, quand Jésus dit « il est écrit », c'est pour dire c'est la parole de Dieu qui a autorité, qui qui est respecté, et il impose et il affirme cette autorité. Ici, Jésus ne dit pas « vous avez entendu ce qui a été écrit », mais « vous avez entendu ce qui a été dit aux anciens ». Il me semble que c'est quelque chose qui amène à plutôt considérer que ce que Jésus conteste ici, Jésus se démarque non pas de la loi de Moïse en tant que telle, mais de cette loi telle qu'elle était interprétée et appliquée. Les pharisiens et les scribes veillaient à respecter à la lettre les commandements de la loi de Moïse. Ils avaient calculé même qu'il y avait dans la loi 248 commandements positifs et 365 interdictions. Et ils voulaient les respecter tous. Ils voulaient être en règle avec chacun. Mais qu'est-ce qui se passe quand on essaye d'entrer dans cette démarche, où on essaie absolument juste d'être en règle avec chaque commandement? On cherche à respecter, oui, mais on essaye aussi, pour s'en sortir, de limiter chaque commandement à sa plus petite surface possible. Oui, c'est ce qui veut dire cela, le commandement, mais il ne veut surtout pas dire ça, et surtout pas ça, et surtout pas ça. C'est comme ça qu'on fonctionne en général, quand on veut juste être en règle avec le commandement. Et on voit d'ailleurs l'illustration de cela dans le dernier exemple de ce que donne Jésus ici dans la série des 6 endroits où il se démarque. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Jamais l'Ancien Testament n'a dit, tu détesteras ton ennemi. L'Ancien Testament dit, la loi de Moïse dit, tu aimeras ton prochain. Et même il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et voyez donc, ici, là, il a été dit aux anciens, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Cela, ça reflète les raisonnements des scribes et des pharisiens. Ils disaient, oui, la loi de Moïse nous dit d'aimer notre prochain, mais tout le monde n'est pas notre prochain. Celui qui est vraiment l'ennemi, il n'est pas vraiment mon prochain. Donc, je dois aimer mon prochain, mais je peux détester mon ennemi. Oui, c'est ce genre de raisonnement qui apparaît ici dans ce que Jésus conteste là. Et c'est précisément ce à quoi s'oppose, si vous voulez, cette espèce de vision de la loi de Moïse où on rend les interdictions moins exigeantes et les permissions plus permissives. Face à cette démarche, Jésus dit à ses disciples, écoutez, ce que je vous demande, c'est de vous laisser interpeller, pénétrer en profondeur par les commandements de Dieu. Et c'est comme si Jésus leur disait, ne vous protégez pas du commandement de Dieu pour absolument être sûr que vous arrivez à être en règle, mais laissez-vous travailler jusqu'au fond par le commandement de Dieu, laissez-vous travailler jusqu'au fond par la volonté de Dieu. Et c'est dans ce sens que Jésus approfondit les choses. La loi de Moïse parle de ne pas commettre de meurtre, mais laissez ça résonner très profondément en vous et réfléchissez et pensez à toutes ces paroles de colère ou de mépris de l'autre qui peuvent aussi, à leur façon, être meurtrières. Un peu plus loin, la loi parle aussi, deuxième exemple, de ne pas commettre d'adultère, mais veillez à ces regards que vous pouvez poser sur l'autre, à cette imagination que lorsqu'elle s'enflamme de désir pour ne pas commettre adultère dans votre cœur, laissez-vous approfondir, aller loin. La loi de même a encadré la répudiation, et exigé qu'on donne une lettre de divorce qui protège la femme. Ne faites pas de ça une tolérance pour toutes sortes de répudiations, pour n'importe quel motif. Jésus dit, seul l'adultère peut être un motif valable. Il faut qu'il y ait une raison très très grave, que le lien du mariage soit vraiment brisé déjà. La loi demande également, autre exemple, de respecter un serment. Mais Jésus dit, je vous demande d'aller encore plus loin, de ne jamais jurer. Et il vaut mieux que vous vous forgiez une réputation d'honnêteté et de droiture qui fait qu'on sait que quand vous dites oui, c'est oui, quand vous dites non, c'est non, et qu'on n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Approfondir le sens du commandement. La loi limite la vengeance et pose un principe de justice, œil pour œil, dent pour dent. Moi, dit Jésus, je vous invite à aller plus loin, à ne même pas résister aux méchants. Et si le méchant, si on vous frappe sur une joue, tendez l'autre joue. Essayez de faire réfléchir le méchant par ce geste. Si on vous force à faire un kilomètre avec quelqu'un, Faites un petit plus, juste pour que l'autre réfléchisse à ce qu'il est en train de faire et qu'il puisse éventuellement revenir sur lui-même, aller plus loin. De même, la loi invite à l'amour du prochain et la tradition arrive à contourner la chose à propos de l'ennemi. Jésus dit, moi je vous demande d'aimer vos ennemis, de prier pour ceux qui vous font du mal, etc. Donc voyez, Jésus nous invite à dire, voilà, il y a le commandement de Dieu, il s'agit d'aller jusqu'au bout du commandement de Dieu. Il s'agit d'y aller de manière radicale. Et cela, on peut le faire, on peut s'exposer au commandement de Dieu. Pourquoi ? Parce que on a de bonnes bases qui sont données dans la Nouvelle Alliance. On sait que notre justice, on peut la recevoir par la grâce de Dieu, par son pardon. Et c'est pas d'abord par notre accomplissement de la volonté de Dieu qu'on est accepté par lui. Donc on a cette base-là. On a aussi l'autre base de dire que Dieu est à l'œuvre dans notre vie et qu'il veut nous transformer. Cela permet d'aller jusqu'au bout des exigences de Dieu. Cela permet vraiment de se laisser vraiment prendre et saisir et approfondir vraiment par la parole de Dieu. Et donc voilà la façon dont Jésus nous invite de recevoir le commandement de Dieu en ayant une attitude très très ouverte qui laisse le commandement de Dieu faire tout son chemin plutôt que d'essayer toujours de trouver toutes les exceptions qui nous permettent de nous en sortir. Et je crois que ça c'est quelque chose qu'il faut entendre aujourd'hui encore, hein. Aujourd'hui, en général, quand on pense à une règle de conduite, la première chose qu'on essaie de chercher, c'est de dire, mais quelle est l'exception ? Quel est le cas limite où ça ne s'applique pas ? On n'arrête pas de fonctionner à partir des cas limites. Hein, et on ne voit pas ce qu'est le centre. Jésus dit, voilà le centre de la volonté de Dieu. Ayez à cœur de faire la volonté de Dieu et laissez-vous vraiment remuer en profondeur, même si ça va loin, même si ça vous conduit loin. Vous avez des bases d'acceptation de la part de Dieu, vous avez des ressources par l'œuvre de Dieu, et vous pouvez donc avoir cette attitude-là. Voilà pour l'attitude que Jésus invite donc par rapport à la loi de Moïse, par rapport aux expressions de la volonté de Dieu. Maintenant, la manière dont Jésus invite à considérer l'éthique, c'est aussi de chercher vraiment dans la façon dont nous voyons le Seigneur, trouver des sources d'inspiration nouvelles pour notre conduite, non pas en fonction de la loi de Moïse simplement, mais aussi en fonction du Seigneur. Lorsque l'on a interrogé Jésus sur le plus grand commandement, Jésus a une réponse pour dire, tu aimeras, quel est le plus grand commandement ? C'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Et il dit « C'est le plus grand des commandements. » Et pour qu'il soit bien clair que cet amour du Seigneur n'est pas une abstraction, Jésus a ajouté « Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus donc unit les deux dimensions de l'éthique, la dimension verticale, « Aimer Dieu » et la dimension horizontale, aimer le prochain. Mais il invite à faire de tous nos actes une manifestation de l'amour. De l'amour pour Dieu d'abord, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est ça le premier commandement, la source de toute chose, qui pousse ensuite et qui rend possible l'amour du prochain. Cela veut dire que Jésus nous invite à une éthique de la reconnaissance. Une éthique de la reconnaissance. Pourquoi essayer de vivre en conformité avec la loi de Dieu ? C'est pas juste parce qu'on est en face d'un code de loi, c'est parce que on aime Dieu, parce qu'on reconnaît qu'on lui doit tout, qu'il nous a tout donné, parce qu'on reconnaît qu'en lui nous avons la vie et le salut, et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Jésus nous invite aussi à une éthique qui est relationnelle et qui est motivée. Ce que nous faisons dans les petites ou dans les grandes choses, il nous invite à en faire l'expression de notre amour pour Dieu. Et ça veut dire que l'éthique, notre conduite, est vraiment une forme de la relation entre Dieu et nous. On n'obéit pas à un code, on cherche à plaire à Dieu. On cherche à faire sa joie. Et il y a là une source d'élan, une source de motivation, une source de joie, une source de sens. Et c'est vrai que bien des choses très simples peuvent être transfigurées par cette motivation où l'on cherche vraiment à le faire pour plaire à Dieu. Parce que le vis-à-vis est le Seigneur, Jésus invite aussi à une éthique de la transparence et de la transformation intérieure en profondeur. Jésus a condamné les pharisiens qui pratiquaient une éthique qui cherchait surtout à préserver les apparences. Et pour les pharisiens, il fallait surtout être extérieurement impeccable. Et Jésus a été très très sévère avec eux. Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Matthieu 23, versets 26 et 27. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Autrement dit, Jésus dit, il faut aller au fond des choses en ce qui concerne la conduite, en ce qui concerne l'éthique. Pas se contenter de l'extérieur, de la superficialité. Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? C'est parce que d'abord, l'éthique est une question de relation avec Dieu. Dieu voit toutes choses. Les hommes, pour les hommes, ça suffit de regarder l'extérieur. Ok, si on préserve les apparences, ça va bien pour les hommes. Mais Dieu, lui, regarde à ce qui est au cœur. Et Dieu veut travailler à cet endroit-là. Et cela, c'est vraiment le fruit d'une éthique de la relation. C'est parce que l'éthique nous place devant Dieu, nous place vraiment dans le désir de lui faire plaisir, nous met dans une relation vraiment avec lui. Cela oblige à la transparence, cela oblige à une sorte d'opération vérité. Ça demande aussi un travail sur nous-mêmes, sur nos motivations. Ça demande une purification de nos désirs, de nos motivations parfois, une transformation intérieure. Mais le but est que cela crée une cohérence plus grande et qu'il n'y ait que c'est ça ce qui est la force de vivre une vie toujours ouverte à Dieu. Ce regard de Dieu sur nous-mêmes en profondeur permet de dire que c'est de l'intérieur que tout part et que le Seigneur purifie, le Seigneur accompagne nos motivations, nous transforme de l'intérieur pour qu'on puisse ensuite aussi aller vers l'extérieur. Et c'est parce que l'éthique de Jésus se situe vraiment dans la relation avec Dieu que Jésus pousse l'éthique jusqu'au point où l'exemple même de Dieu doit nous inspirer. Nous sommes en relation avec Dieu, nous sommes invités à aimer Dieu par notre manière de vivre et Jésus dit, cela veut dire aussi que l'exemple même de Dieu doit être votre mobile et doit vous inspirer. C'est ce qu'il souligne à propos de l'amour de l'ennemi. Comment est-ce qu'il motive l'amour de l'ennemi ? Il dit, il faut que vous soyez fils de votre Père. Et votre Père, lui, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. La manière de Dieu est donnée en exemple pour aller plus loin, pour pousser plus loin véritablement. Et c'est vrai dans d'autres domaines. Quand on a demandé à Jésus « Combien de fois vais-je pardonner ?» La réponse de Jésus, en substance, est de dire « Tu pardonnes autant de fois que Dieu te pardonne. Autant de fois que Dieu te pardonne, tu pardonnes aussi. » Jésus veut que la relation avec Dieu soit pour nous quelque chose qui nous transforme et qui nous pousse à agir aussi à son image. Et c'est ce qu'il dit dans une formule qui va très très loin, une formule indépassable dans le Sermon sur la montagne, lorsqu'il dit dans Matthieu 5, verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Alors pour certains, ça c'est le commandement impossible. Ça c'est l'objectif irréalisable. Ça c'est la parole qui nous culpabilise et qui nous écrase toujours. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Je crois que c'est se tromper sur cette parole que d'en faire juste une sorte d'un commandement qui serait juste une exigence. Et j'aimerais juste vous faire remarquer une chose. Jésus ne dit pas « Soyez parfaits comme Dieu est parfait ». Il ne dit pas « Soyez parfaits comme Dieu est parfait ». Il dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Parler de Dieu comme votre Père Céleste, c'est d'abord dire « Vous êtes en relation avec ce Dieu-là. » c'est rappeler qu'il y a une relation avec Dieu. Et c'est situer vraiment le fait que nous sommes appelés à être transformés dans le cadre de cette relation. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le but de cette transformation, c'est que nous nous comportions comme des fils de notre Père. Maintenant, comment est-ce qu'un fils est appelé à ressembler à son Père ? Est-ce que c'est comme ça d'un coup qu'on dit « tu dois être comme ton Père » ? C'est pas du tout c'est pas comme ça que les choses se fassent dans l'éducation. Comment est-ce qu'un fils devient semblable à son Père ? C'est d'abord parce qu'il est en relation avec le Père. C'est parce qu'il reçoit force, soutien, encouragement, modèle, accompagnement, etc., qu'il peut progressivement devenir semblable à son Père, intégrer un certain nombre de valeurs, être formé, se former vraiment à cette image-là. Vous voyez, c'est dans une attitude de relation que les choses se passent. Et lorsque Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, votre Père céleste est parfait », comportez-vous comme des fils, comme des enfants de votre Père. C'est vraiment dans le cadre de cette relation. Jésus dit, vous êtes appelés, oui, à refléter de plus en plus l'image de votre Père, à être des fils de votre Père. Oui, des fils et des filles de votre Père. Vous êtes appelés à le faire, mais c'est quelque chose qui se fait dans la relation. Et Jésus dit, voilà jusqu'où cela doit aller. Donc c'est un objectif que Jésus donne. Jésus nous rappelle qu'on doit être changé encore et toujours pour être fils et filles de notre Père. Et on sait, et ça va jusque tout au bout des choses, donc ce ne sera jamais fini. Mais il est clair que c'est un processus que Jésus envisage et un processus qui se vit en relation. Et une relation dans laquelle le Père est là, nous accompagne, nous forme et vraiment veut nous transformer progressivement. Vous voyez la clé ici vraiment. C'est la relation. Hein. Et je crois que c'est important de le noter. L'objectif, c'est de grandir en conformité avec notre Père. Et Jésus nous dit jusqu'où cela peut aller. Et on peut noter que Jésus nous donne ici ce qui est la clé et la motivation de sa propre vie spirituelle. Quelle était la clé ? Quelle était la motivation de sa vie spirituelle ? Jean 5, verset 19. En vérité, je vous le dis, le Fils ne fait rien de lui-même, ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. La grande clé de la vie de Jésus, c'est de dire, je veux être semblable à mon Père, je veux vraiment vivre cette vie dans l'intimité du Père, véritablement. Et donc, Jésus nous donne ici la clé de sa vie à lui, lui-même en tant qu'homme, que Dieu fait homme, c'est ainsi qu'il envisage les choses. Vous voyez que l'éthique de Jésus va loin, elle va loin parce qu'elle combine le modèle et la relation. Mais Jésus nous propose ici ce qu'il a lui-même vécu. Mais c'est important de voir que quand Jésus dit « Soyez parfaits, quand votre Père céleste est parfait », c'est ce processus qu'il décrit dans le cadre d'une relation. J'ai parlé donc du fait que le Christ nous invite à vivre ce que lui-même a vécu, et cela mène à un point supplémentaire, qui est de dire que nous sommes appelés à vivre notre éthique chrétienne, quatrièmement, à la suite du Christ. Hein. Il y a l'exigence de la justice, mais nous sommes appelés aussi à vivre l'éthique à la suite du Christ. Et il y a là une autre dimension de l'éthique de Jésus, c'est que Jésus en a donné lui-même l'exemple par sa vie. Et c'est certainement ce qui fait la grandeur et la particularité de l'éthique de Jésus. Elle est très élevée dans ce qu'il dit, dans ce qu'il demande, mais en même temps, elle a été pleinement vécue, pleinement incarnée. Et lorsque l'on regarde la vie de Jésus, quand on médite sur ses attitudes, sur ses choix, sur ses priorités, on a vraiment un modèle vivant. Et il est possible constamment de mettre en relation ce que Jésus enseigne, ce qu'il demande quant à vivre selon la volonté de Dieu et la façon dont il l'a incarné. Et du coup, Jésus lui-même peut devenir source d'inspiration pour nous. Il le déclare lui-même à la fin de son ministère, Jean 13, versets 34 et 35, « Je vous donne, dit-il, un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La nouveauté du commandement, c'est le « comme je vous ai aimé ». Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Autrement dit, l'éthique chrétienne est une éthique qui se vit à la suite du Christ. Et c'est une grande richesse, parce que nous avons là un exemple concret. Nous avons aussi là une motivation. On suit le Christ par amour pour lui faire plaisir en reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour nous. Et c'est un bonheur de pouvoir vraiment suivre le Christ là où il a vécu, même quand c'est exigeant. Hein, certains chrétiens qui souffrent pour leur foi découvrent une joie dans cette souffrance, non pas parce qu'ils souffrent, mais une joie de dire « ce que Jésus a vécu, je le vis moi aussi, et je suis là à ses côtés ». Donc c'est une grande richesse et une motivation que de pouvoir suivre le Christ dans notre marche chrétienne. En même temps, c'est un encouragement, parce que on voit dans la vie du Christ combien ont été utiles, combien ont été fécondes certaines attitudes qui sont parfois difficiles à adopter. Jésus nous invite à vivre le service, à faire du service de l'autre une vraie valeur. C'est pas toujours très évident, c'est pas toujours quelque chose dont on voit, nous, que ça apporte quelque chose. Mais quand on regarde la vie de Jésus dans son ensemble, on voit la fécondité de ce qu'a apporté cette vie où Jésus s'est mis au service de l'autre. Ça a apporté tellement de fruits. Et c'est aussi quelque chose qui peut nous encourager nous-mêmes à vraiment entrer dans ce que Jésus nous propose. Et donc, on ne peut pas penser l'éthique de Jésus sans méditer en même temps sur la vie de Jésus, sur ce qu'il a fait. Ce sont les deux parties d'un même livre. Il faut les lire ensemble. Si vous lisez simplement le Sermon sur la montagne, cela peut vous sembler parfois très élevé, peut-être même un peu irréaliste. Mais mettez à côté la vie de Jésus. Mettez la vie de Jésus. Voyez la façon dont il a vécu le Sermon sur la montagne. Et là, on se dit, mais c'est pertinent. C'est pertinent. Voyez, ça a de la consistance. Et il nous faut lire l'éthique de Jésus à la lumière de sa vie. Ça change le regard, ça oblige à réfléchir sérieusement. Et c'est pourquoi c'est important de venir régulièrement et de revenir à la vie du Seigneur Jésus, à son enseignement. L'exemple de Jésus fait partie de son enseignement éthique. Il dit « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je l'ai fait. » Jean 13, verset 21, verset 15, c'est quand il a lavé les pieds de ses disciples. Et l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 2, 21, « Christ vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Donc nous laisser inspirer aussi par l'exemple du Christ, pour vivre une éthique à la suite du Christ. Dernier point que j'aimerais souligner concernant l'éthique de Jésus, c'est que c'est une éthique qui nous invite à donner des vraies priorités, mais qui aussi tient à montrer que le Seigneur veut récompenser ses enfants. Donc priorité et récompense. L'éthique de Jésus se présente vraiment comme une éthique où il s'agit d'apprendre à faire des priorités. Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste, toutes ces autres choses, pour lesquelles parfois vous faites beaucoup de soucis, toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. » Autrement dit, il y a des choix clairs à faire, en fonction du royaume de Dieu et de sa justice. Il faut savoir donner priorité au royaume de Dieu, de manière claire et nette. Et cela doit se manifester ensuite par des choix, par des attitudes à l'exemple de Jésus. Il faut savoir donner des priorités. Et cela veut dire parfois que le royaume de Dieu peut être amené à passer avant des choses qui seraient légitimes. C'est dans ce sens que Jésus en parle, par exemple par rapport à la famille. Jésus valorise le fait d'avoir le souci des siens. Jésus a rappelé que la loi de Moïse demande d'honorer son père et sa mère. Ça veut dire prendre soin de son père et de sa mère et des siens, Matthieu 15, verset 4. Et en même temps, Jésus parfois dit il faut savoir quitter père et mère pour le royaume de Dieu. Donc, il y a à certains moments, il faut être prêt à donner des priorités pour le royaume, même sur des choses qui sont légitimes. De même, Jésus dit, certains se sont rendus eunuques pour le royaume de Dieu, c'est-à-dire ils ont accepté de rester célibataires pour pouvoir vraiment servir Dieu de manière plus conséquente. Et c'est un choix que certains peuvent être amenés à faire ici ou là. C'est aussi dans ce sens que Jésus parle des richesses, en disant l'acquisition des biens ne doit pas prendre toute la place dans notre vie. Il ne faut pas qu'on vive que pour se faire de l'argent, que pour devenir riche, que pour se faire une situation. Il s'agit de chercher d'abord le royaume de Dieu, de mettre ça clairement en priorité et de dire le reste, ça prend sa place, mais de manière seconde. Et c'est ce qui implique aussi toutes les invitations à la générosité, par exemple. Ça demande de donner la même priorité au royaume de Dieu et donc à faire confiance aussi à Dieu pour tout cela. Et cette priorité à donner au royaume de Dieu implique aussi que l'on sache parfois renoncer à certaines choses légitimes. Ce thème de savoir renoncer est aussi quelque chose qui est bien présent dans l'enseignement de Jésus. Vous voyez, tout cela, ça veut dire que l'éthique que Jésus nous propose doit impliquer un choix clair de royaume, un choix clair de priorité, par exemple. Pardon, choix clair de priorité. Il s'agit de dire oui très clairement, je veux que ma vie soit orientée dans le sens du royaume de Dieu pour manifester la volonté de Dieu en ce qui me concerne. On n'est pas dans la négociation permanente. Je crois que certaines personnes vivent leur vie dans la négociation permanente. Tout est objet de discussion. Oui, pourquoi Seigneur, pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi moi, pourquoi toi, etc. Jésus nous invite à avoir des choix clairs pour que son royaume soit à la première place. Et il dit, c'est ça ce qui sera la source de tout le reste. Et Dieu saura donner le reste. Et justement, en contrepartie de cela, il y a le deuxième enseignement de Jésus, où Jésus dit vraiment que jamais ces choses-là ne se feront à sens unique. Chaque fois que Jésus parle d'une priorité à donner à Dieu, il rappelle que Dieu, lui, veille aussi sur nous. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Lorsque Jésus dit, éventuellement, que si quelqu'un quitte en mon nom frère, sœur, ou sa mère ou sa femme, il recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Et à bien des reprises, Jésus insiste sur le fait que Dieu veut récompenser d'une certaine façon, honorer ceux qui lui donnent priorité. Pourquoi cet accent? Est-ce que c'est la carotte pour nous faire avancer? Non. L'idée d'une récompense de la part de Dieu, ou même d'une compensation pour des sacrifices que nous aurions faits, se situe dans la perspective de relation dans laquelle Jésus voit l'éthique. Quelle est la récompense du serviteur qui a accompli bien sa tâche? C'est qu'il a fait la joie de son maître. Et son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et Jésus nous dit ici finalement, parce que justement, si vous cherchez à donner priorité donner priorité au royaume de Dieu par amour pour Dieu, mais le Seigneur va apprécier cela. Et vous pouvez être sûr que c'est quelque chose qui le rejoint, qui le touche. Que veut dire lorsque Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus » Ça veut dire que Dieu nous aime. Ça veut dire qu'on peut avoir confiance dans cet amour, que Dieu veillera sur nous. Et que si nous lui donnons des priorités, lui veille en tout premier à nous donner aussi ce qu'il nous faut. On n'est pas dans un calcul d'intérêt en disant « je cherche prioritairement le royaume de Dieu pour recevoir je ne sais pas trop quoi derrière ». On est dans une relation d'amour, dans une relation d'attention et d'attention réciproque. Le Dieu que nous présente Jésus n'est jamais un Dieu à sens unique. C'est jamais un Dieu qui ne serait qu'exigence envers nous. C'est un Dieu de relation, un Dieu d'attention, de sensibilité, de générosité qui est attentif à nous. Et c'est aussi ce qui donne une vraie force à l'éthique de Jésus, de savoir vraiment que oui, on est appelé à faire de vraies priorités pour le Seigneur, mais lui-même aussi sait apprécier cela et saura toujours répondre de la façon dont lui l'envisage, parce qu'il nous aime et parce que justement, ces choix de priorité sont faits dans le cadre d'une relation d'amour et il est le premier impliqué dans cette relation. Voilà. Donc, si vous voulez, ça donne les orientations, me semble-t-il, de l'éthique de Jésus. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais je m'arrête là pour aujourd'hui, pour essayer de nous faire bien comprendre, si vous voulez, surtout cette idée d'une éthique très relationnelle, hein, qui permet d'aller très loin, mais aussi en sachant que tout cela se vit dans une relation avec le Seigneur, et c'est ça ce qui est véritablement déterminant. Alors peut-être vous êtes assommé complètement, peut-être vous avez éventuellement une question, une remarque. J'aimerais juste laisser la place si quelqu'un voulait éventuellement demander quelque chose, une précision, ou contester quelque chose que j'ai pu dire.